livre de la Genèse, au chapitre 26 de la Genèse. À partir du verset 12 jusqu'au verset 25, un épisode très connu de la vie d'Isaac. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qui avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Ézec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Réoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Amen. Gloire à Dieu. Dans l'Épître aux Romains, on lit encore deux textes. Au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, et le verset 35 jusqu'au verset 39, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie ? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance, et je prie pour que cette assurance habite dans mon cœur et dans le tien aussi, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Au chapitre 11 de la même épître, on lit au verset 33 encore quelques lignes. Romains 11, 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, on pourrait dire de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensible, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et un dernier texte, et bien sûr il y aura un fil conducteur entre toutes ces références bibliques, Jérémie, chapitre 17, les versets 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse à travers sa parole ce matin. Le prophète Jérémie exprime ici quelque chose de tellement vital, tellement important. Nous imaginons un tableau, un désert aride, solitude, la canicule, on connaît ça depuis plusieurs semaines, la chaleur accablante, les habitants souffrent, le bétail souffre, la végétation souffre, et puis voici, il y a un arbre qui est là, qui se dresse fièrement, son feuillage est verdoyant et ses branches sont chargées de fruits. Quel témoignage et quel miracle! Et c'est sur ce miracle que j'aimerais ce matin que nous tournions nos yeux, parce qu'au plan moral et spirituel, on peut quand même reconnaître que c'est l'aridité générale, la société, l'humanité est comparable à un immense désert. Mais au milieu de ce désert, la volonté de Dieu, c'est que son peuple et chacun de ses enfants ressemble à un arbre plein de vitalité. Est-ce que tu veux être cet arbre ? Dieu le veut. Avec les philosophies obscures, ténébreuses, qui sont prônées, véhiculées dans les réseaux sociaux, qui inspire les commentateurs, les chroniqueurs, qui inspire le monde politique, social, économique, dans un contexte des plus défavorables, Dieu a le pouvoir de faire de toi et de moi un arbre qui se dresse plein de vitalité. La rudesse du contexte d'aujourd'hui ne réussira pas à altérer ta vigueur, ta santé, ta vitalité, mais tu seras un témoignage, nous sommes appelés à être un témoignage présentant au monde en détresse qu'avec Dieu, c'est la vie qui triomphe. Amen. Avec Dieu, c'est la vie qui triomphe. Et bien sûr, c'est une évidence, cet arbre plein de vie, alors que tout le conduirait à dessécher, lui, au contraire, il est plein de vie. Cet arbre, bien sûr, il a un secret. Et on le sait tous, son secret se trouve dans la profondeur de ses racines. Et ce matin, frères et sœurs, il va s'agir dans mon message de la profondeur. J'aimerais vous parler de profondeur. Parce que la Bible mentionne les quatre dimensions de l'amour de Christ, sa largeur, et l'amour de Christ est d'une largeur extraordinaire, puisqu'il a été assez large pour aller sauver un Arménien qui vous prêche ce matin. Et c'est incroyable. Hein, Dieu a tant aimé le monde, la largeur de l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Hein, l'amour de Christ, il a été suffisamment large pour révéler le salut à un supplicié et à son bourreau, presque en même temps, le brigand de la croix qui invoque le Seigneur et le centenier romain qui confesse assurément. Cet homme était... Ouais. Les deux extrêmes, l'amour de Christ a été capable, dans sa largeur merveilleuse, eh bien de les toucher les deux, que le Seigneur soit béni. Si quelqu'un devait avoir l'impression d'être dans une situation morale tellement négative que même l'amour de Christ ne le concernerait pas, détrompe-toi. La largeur de l'amour de Christ va jusqu'à toi. Et puis la longueur de l'amour de Christ, heureusement que l'amour de Christ est d'une durabilité à toute épreuve. Amen. Parce que nous avons une capacité d'aimer. Sauf à Aubagne, où vous êtes les recordmans, mais notre capacité d'aimer, elle a ses limites. Non ? Eh bien, l'amour de Christ n'a pas de limite. Dans sa longueur, au travers des années et pour quelques-uns des décennies de marche chrétienne, avec de nombreuses... défaillance, chute, erreur également, eh bien l'amour de Christ s'est maintenu. Et la preuve, c'est qu'on est là. C'est parce que l'amour de Christ est d'une longueur merveilleuse que nous sommes là. Gloire à Dieu. Christ ne se lasse jamais dans son amour. Et puis la hauteur de l'amour de Christ, parce que l'amour de Christ nous introduit dans une dimension glorieuse, céleste, et la profondeur de l'amour de Christ. La profondeur de l'amour de Christ. J'aimerais insister ce matin, frères et sœurs, sur la dimension de la profondeur. Parce que Dieu œuvre aussi dans cette dimension de profondeur. Dans le psaume 130, le psalmiste s'écrie de la profondeur de l'abîme. Je t'invoque, ô Éternel. Eh bien, Dieu est le Dieu qui va dans les profondeurs les plus profondes pour sauver le malheureux pécheur, la pécheresse honteuse, détruite, abîmée. Dieu va dans le fond du fond. Et dans toutes nos églises, on entend parfois des témoignages extraordinaires. Et quand moi, je me régale d'écouter les témoignages d'hommes et de femmes qui nous racontent d'où le Seigneur les a sortis, on est émerveillé. Il n'y a pas de situation assez profondément désespérée que le Seigneur ne puisse intervenir, que quelqu'un prenne courage ce matin. Dans ta profondeur, Dieu y est pour te porter secours. Amen. Et puis je dirais que Dieu agit en profondeur à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous. Parce que il y a dans les replis intimes de notre personnalité, eh bien des besoins. Il y a des besoins. Et il y a, plus qu'on le pense, des souffrances. Des blessures qui ne cicatrise pas, en tout cas facilement. Je dis une chose évidente, mais je la dis quand même. c'est que le baptême par immersion ne règle pas tout. Le jour où, convaincu que Jésus est mon sauveur et désireux de le suivre, je prends le baptême, c'est merveilleux. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Mais le baptême ne règle pas tout, comme par magie. Le baptême, c'est un commencement, c'est un départ. Après ce départ merveilleux, il y a tout un process où Dieu va s'employer à agir en profondeur, là où sont tapis des peurs, des fragilités dans ma personnalité, des craintes parce que des traumatismes violents du passé ont laissé des séquelles encore vivaces, des réactions, des réflexes d'autodéfense, des crispations, de la méfiance. Il y a des tas de réalités cachées qui se trouvent profondément en chacun d'entre nous. Et vous savez quoi ? Eh bien, Dieu veut aller en profondeur. Dieu ne veut pas te bénir en passant. Dieu ne veut pas te bénir en effleurant la surface de tes émotions. Mais Dieu veut aller en profondeur. En profondeur. Alléluia. Dans les replis de ton âme, dans ta mémoire, là où tu as stocké des choses que tu n'aurais jamais voulu vivre et tu les as vécues quand même. Donc, tu as stocké des choses. Et il y a un proverbe, il est surprenant, mais quand on y réfléchit, il est plein d'enseignements, il est très très court. Il dit, le sable est lourd. Le poids du sable. Mais si vous prenez un grain de sable, c'est... c'est tellement, tellement minuscule. Sauf que, quand un grain de sable s'ajoute à un autre, et c'est des milliers et des centaines de milliers, et on accumule un stock de sable, eh bien, c'est lourd. Eh bien, je me demande si dans le cœur, la conscience et la mémoire de beaucoup d'hommes et de femmes, il n'y a pas cette réalité accablante. Parce que ce texte, quelqu'un l'a traduit aussi de la manière suivante. Le fardeau du sable est accablant. Alors, tu as peut-être accumulé des choses. Alors, une à une, ça peut être gérable. Une contrariété, une trahison, une déconvenue, un espoir trompé, que sais-je, un échec. Mais l'addition de tout cela fait que le sable est lourd. Et il y a peut-être dans le cœur de quelqu'un cette pesanteur, cette lourdeur. Eh bien, Dieu veut travailler en profondeur. Amen. Et il veut soulager ton cœur de tout ce qui l'accable. Alléluia. Est-ce que Dieu peut le faire ? Amen. Il suffit que tu le laisses faire, que tu ouvres ton cœur en reconnaissant les choses, en disant, Seigneur, mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Il y a tant de lourdeur sur mon âme parce que j'en ai vu, certains disent, des vertes et des pas mûres. Moi, je n'ai pas compris encore l'expression, mais je sais ce que ça veut dire. On en a traversé, on a souffert, on a multiplié des expériences négatives. Eh bien, Dieu veut aller en profondeur pour te libérer de ce poids terrible. Mais je parlerai dans la seconde partie de mon message qui arrive là maintenant, de la profondeur de notre relation avec Dieu. De tes racines, de mes racines. Et vraiment, vraiment, c'est là le secret unique pour qu'en pleine année de sécheresse, tu demeures verdoyant. C'est les racines, leur santé et leur profondeur que le Seigneur nous encourage ce matin. Je sais très bien qu'aujourd'hui, parler de la notion de profondeur, ce n'est pas dans l'air du temps. Ce n'est pas populaire parce qu'on vit un siècle, en fait, on vit un siècle qui privilégie plutôt la facilité, la superficialité. On vit dans l'époque de l'image, hein ? C'est l'image, c'est l'apparence, c'est les chiffres, les statistiques, c'est les performances tape à l'œil. Vous voyez, c'est ce qui accroche le regard. Mais on s'aperçoit que se nourrir de superficialité, ça infantilise et ça nous prive d'acquérir de la maturité spirituelle. Ma prière, c'est que vous et moi, nous grandissions en maturité spirituelle. Oui ou non ? Là, en ce moment, à la maison, c'est le débarquement estival. C'est-à-dire qu'il y a 12 personnes, il n'y a que 3 chambres. Bon, on fait... Et alors, il y a 3 générations. Et alors, les tout-petits, quelquefois, c'est presque rigolo si ce n'était pas agaçant à la fin. Mais bon, pour une peccadille, mais ils hurlent. Et quand vous voulez savoir quelle est la raison, mais c'est l'histoire d'un jouet. Je voulais le jouet bleu et pas le rouge. Mais ils hurlent comme s'ils avaient été amputés, je ne sais pas, d'un bras, je ne sais pas, vous voyez. Ben, c'est le propre de l'enfance. J'espère qu'il n'y a pas des hurlements semblables parmi nous, voyez, qui, en partant de choses très minimes finalement, suscitent des cris, des hurlements, des expressions démesurées, disproportionnées. Alors, avec la grâce de Dieu qui œuvre en profondeur, nous devons acquérir de la maturité, de la profondeur. Être des hommes et des femmes établis, maintenant toujours leurs émotions sous l'influence de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est là où Dieu veut déployer son action, après nous avoir sortis de la profondeur de notre abîme et introduit dans son salut, il va travailler à développer la profondeur de notre foi et de notre communion avec lui. Je me suis laissé dire que dans un état de l'Inde où il y a un climat particulièrement rude, où la pluie est rare, eh bien, les habitants de ce secteur ont conçu, vous voyez, quelquefois les incroyants ont une sagesse qu'on devrait imiter, quoi. Enfin, ils ont conçu ce qu'on appelle en anglais des step wells, des puits en escalier. Et donc, ils ont fait des ouvertures dans la terre et ils ont construit dans le sous-sol des structures maçonnées, mais impressionnantes, quoi. Des marches d'escalier avec des paliers, et puis on revient et on descend avec des structures impressionnantes. Le stepwell le plus visité date de l'an 800 de notre ère, à Chandbaori. Il y a un puits en escalier de 3500 marches sur 13 paliers, 13 niveaux. Et en descendant ces 3500 marches, on arrive aux nappes phréatiques, l'abondance de l'eau. Et ça permet de répondre 12 mois de l'année aux besoins des habitants, du bétail et des cultures. Ben, le Seigneur voudrait que nous creusions notre stepwell. Amen. Que nous creusions. Il faut creuser. Hein. Le verbe creuser est mentionné dans le paragraphe que nous avons lu dans la Genèse à 7 reprises. Creuser, creuser, creuser encore, creuser, jusqu'à trouver le contact avec l'eau. Alors que le monde encourage la superficialité, L'évangile prête à consommer des programmes de louanges professionnels ou un peu comme nous ce matin, vous voyez, hein, des formats très lisses, professionnels, bien préparés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas soigner le truc. Si, si, il faut quand même soigner, mais le monde en fait la priorité, Dieu fait de la priorité le fait qu'il faut creuser. Si vous deviez retenir un encouragement ce matin, ce serait celui-ci. Creuse ta vie spirituelle. Creuse. Pas avec l'index et la souris, là. Non. Creuse. Prends ta Bible. Prends. Médite la Bible. Médite l'Écriture. Prends du temps dans la prière. Creuse. 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 Moi, vous voyez, c'est ma lecture personnelle. Si vous ne la partagez pas, mais je vous aimerai quand même, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, les 10 jours... entre acte 1.14 et acte 2.1, où il y a le baptême dans le Saint-Esprit, vous savez, l'effusion d'esprit, et acte 1.14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ça a duré 10 jours. Et moi, je me dis, pendant 10 jours, ils ont creusé dans la prière. Ils ont cherché Dieu ensemble. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ils ont cherché Dieu. Seigneur, cette promesse, nous l'attendons, nous la voulons, nous la désirons. Et ils ont creusé leur step well. Et le jour de la Pentecôte, eh bien, il y a l'exaucement. Et quelle abondance! Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia! Oh, que Dieu soit béni! La promesse de Jésus en disant, mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, des fleuves d'eau vive jailliront. Mais ça, c'est merveilleux, ça y est, on a trouvé le contact avec la source inépuisable de cette eau vivifiante, et cette fraîcheur de vie va monter tout au long de la racine et des troncs et des branches, et dans l'année de la sécheresse, eh ben moi, je vais rester verdoyant. Et je vais continuer à porter des fruits. Que Dieu soit béni. La déprime générale ne m'entamera pas, n'enlèvera pas ma joie, n'ébranlera pas mon espérance et mes certitudes en Jésus-Christ. Pourquoi ? Mais parce que j'ai été en profondeur. Je reconnais volontiers et humblement que ma propre vie avec le Seigneur est appelée à gagner en profondeur. En profondeur. Lorsque tu prends chaque matin ou chaque soir un temps privilégié avec ton Seigneur, cette discipline quotidienne te permet de creuser ton step well et de développer tes racines. Je veux dire une chose, c'est au temps de l'épreuve, c'est dans l'année de la sécheresse qu'on fera la différence entre les végétaux aux racines superficielles et les arbres aux racines profondes. Qui veut être un végétal aux racines profondes ? Il y en a 3, 4, bon, c'est déjà pas mal. Non, il y a une forêt, hein. On veut être de ces croyants qui vivent leur foi profondément, que le Seigneur soit béni. Et pour en terminer, dans l'Épître aux Romains, dans ce chapitre 11 que nous avons lu, l'apôtre Paul s'extasie, il s'émerveille, et il dit « Ô profondeur, où je trouve 3 bénédictions, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. » Amen. Dans ces profondeurs bénies, tu vas profiter de 3 bénédictions. Je nous les souhaite. la richesse de Dieu, la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu. Amen. Ça commence par la richesse. Mais attention, c'est la vraie richesse. Là, on parle de la vraie richesse, pas celle de l'église de Laodicée qui s'illusionnait elle-même en disant « Je suis riche, je n'ai besoin de rien » et le Seigneur va lui dire « Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Alors je te conseille de te repentir et de réclamer de l'or éprouvé par le feu, un collier pour oindre tes yeux, des vêtements pour couvrir ta nudité. Je ne voudrais pas faire partie de ces prétendus croyants qui se leurrent dans leur propre raisonnement en pensant que c'est voilà, la richesse. Non, moi, ma prière et ma soif, le désir de mon cœur, ce sont les vraies richesses, les richesses de Dieu, les richesses éternelles. La Bible nous dit, en parlant de richesse, que Dieu est riche en bonté. Amen. C'est encourageant de savoir que mon Dieu est riche en bonté, que ses réserves de bonté sont telles qu'elles répondront toujours aux besoins de ses enfants. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ton Dieu est riche en bonté. Amen. La Bible nous dit que Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Lorsque tu l'invoques, avant même d'ouvrir ta bouche et de formuler ta prière, sois convaincu que ton Dieu que tu t'apprêtes à invoquer est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Amen. Parce que prier n'est pas un déversoir de pensées déprimées, c'est pas simplement raconter tout ce qui ne va pas, mais c'est la prière de la foi. C'est la prière pleine d'espérance. C'est la prière bien consciente des réalités présentes, mais surtout consciente que le Dieu que j'invoque, il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Amen. La Bible nous dit aussi que Dieu nous bénit selon l'infinie richesse de sa grâce. Alors que le Seigneur nous fasse aller en profondeur et que nous puissions bénéficier de ces richesses qui sont les véritables richesses. Gloire à Dieu. Une foi triomphante, quelle richesse. Amen. La capacité de persévérer dans les temps difficiles, quelle richesse. La richesse de Dieu est capable de nous procurer des performances lorsque les défis se dressent en chemin parce que nous avons été enrichis par lui. Alors nous faisons face triomphalement. Que Dieu soit béni. On trouve cette seconde bénédiction dans les profondeurs de Dieu. On trouve la sagesse de Dieu. Oh, je pense que vous serez bien d'accord avec moi. Dans ce monde qui marche la tête à l'envers, on a besoin de la sagesse. Amen. La sagesse de Dieu. Alors, je profite en mentionnant la sagesse de Dieu pour dire que, écoutez bien, quelqu'un peut-être est concerné spécialement par ce commentaire. Le béaba de la sagesse, c'est de se convertir à Jésus-Christ. C'est le béaba. Le béaba de la sagesse, c'est de se préoccuper du sujet essentiel, notre âme, notre salut, parce que la société nous propose tellement de préoccupations, je dirais, secondaires et bien souvent infondées. Mais la sagesse que Dieu veut faire briller à nos yeux, c'est le salut de notre âme. Et j'espère que tout le monde est sauvé ce matin parmi nous. Quelqu'un demandait à un pasteur un jour, « Pasteur, je ne sais pas si je suis sauvé. » Le pasteur lui a dit, « Ben moi, je sais que tu ne l'es pas. » Parce que quand on ne sait pas si on est sauvé, ben, on est sûr qu'on n'est pas encore sauvé. Et l'urgence est là devant nous, comme si Dieu nous pressait d'entrer dans cette première sagesse du salut de notre âme. La préoccupation qui devrait tenailler l'esprit de l'incroyant ou du pécheur ignorant, c'est de savoir s'il est sauvé. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Et ma Bible me dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Moi, je vous souhaite à tous d'arriver à des âges séculaires. Mais ce que je sais aussi, c'est que demain ne m'appartient pas. Et que la Bible nous interpelle en disant, voici, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, le jour de la grâce. Alors je supplie quelqu'un ce matin qui ne serait pas encore prêt à rencontrer le Seigneur, qui n'est pas certain de son salut, de se tourner vers Jésus et de prendre la décision désormais de donner ta vie à Jésus, pas à 99,5%, mais totalement. Prends la décision, la résolution de ne plus vivre un jour de plus sans lui. Assure-toi que ton nom est écrit sur son livre de vie. C'est la première sagesse. Il y a très très longtemps, nous étions au Puy-en-Velay et puis on était un petit peu fatigués avec ma femme. Et on s'est dit, tiens, ben, ce lundi, on va se balader un peu dans le centre de la ville. On se balade lundi matin au Puy-en-Velay vers la place Dubreuil, là, et on passe à 2 mètres d'un banc où il y avait 3 mamies, même des mamies. Et on attrape en passant une bribe de leur conversation. Et l'une dit aux 2 autres, « Alors, vous l'avez touché, le tiercé, dimanche ?» Dans 3 matins, elles vont aller dans l'au-delà. Et leur préoccupation, c'était de toucher le tiercé ou non. Il y a tellement de préoccupations trompeuses, dérivatives, digressives, qui nous éloignent de la sagesse prioritaire. Si ton âme n'est pas sauvée, Dieu veut qu'elle le soit aujourd'hui. Donne ton cœur, donne ta vie, décide, prends la décision d'une manière définitive. Et là, dès la rentrée, eh bien, vois le pasteur et parle-lui de ton désir maintenant de marcher avec Jésus. C'est la première sagesse. Occupe-toi de ton salut et de ton éternité. Alléluia. Et puis après, bien sûr, il y a toutes les facettes merveilleuses de la sagesse de Dieu pour gérer eh bien, notre quotidien, notre vie intérieure et personnelle, gérer nos pensées, gérer nos sentiments, notre affect, gérer notre vie de couple, gérer l'éducation de nos enfants, gérer notre quotidien dans le milieu professionnel, gérer toutes les situations, finalement, qui composent une vie, gérer sa jeunesse quand on est jeune, gérer sa vieillesse quand on est moins jeune. Il y a des saisons, et pour chaque saison, j'ai besoin de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu se trouve dans les profondeurs. Amen. Gloire à Dieu. Il m'est arrivé que certains bien-aimés viennent vers moi en me demandant, vous savez, comme on trouve dans des boîtes de médicaments, des des modes d'emploi et des posologies. Pasteur, comment il faut que je fasse ? Et ils s'attendent à un petit A, un petit B, un petit C, un petit D, une ligne de conduite toute cuite, quoi. Hein, toute... Non, va en profondeur. Cherche le Seigneur et tu vas trouver la sagesse de Dieu. Et il va te donner, il va te communiquer sa pensée. Il va diriger ta vie. Intérieurement, tu vas ressentir lorsque il te freine. A contrario, parfois, tu vas sentir qu'il t'encourage. Tu vas sentir une approbation intérieure, une joie. Développe cette sensibilité dans les profondeurs du Seigneur. Et puis, je termine, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, pardonnez l'expression si elle vous semble un peu peut-être familière, mais j'ai envie de dire, c'est le cœur de Dieu. C'est là, on trouve le cœur de Dieu. La connaissance de Dieu. Vous savez, quand Dieu dit, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est un témoignage de satisfaction de la part du Seigneur. J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur. Eh bien, vous et moi avons certainement besoin, certainement, de développer la profondeur de nos racines dans le domaine de la connaissance de Dieu. Et là, je vous parlerai de la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Frères et sœurs, développons notre communion avec Dieu. Amen. Je disais, il n'y a pas très très longtemps, que j'observe ces deux catégories de chrétiens. D'une part, les chrétiens de connexion. D'autre part, des chrétiens de communion. Les chrétiens de connexion, c'est mieux que rien quand même. Mais c'est des chrétiens qui sont bénis et qui se réjouissent parce que, waouh, on a eu un bon culte ce matin. Il y a une connexion. Ou alors, ouais, on a fait un camp de famille, on a été bénis. Des chrétiens, mais la connexion, c'est sporadique parce qu'il arrive aussi qu'on n'ait plus de connexion. C'est instable. C'est fragile. Ça vous est jamais arrivé sur vos écrans de smartphone de lire « faible connexion » ou alors « vous n'avez plus de connexion ». La connexion, quand ça marche, c'est bien. Mais c'est que c'est fragile. C'est fragile. Une mauvaise nouvelle, une contrariété, quelque chose qui bouscule mes sentiments, ça y est, je perds la connexion et je panique et je sombre dans le désespoir. Et Dieu veut transformer la connexion en communion. Des chrétiens de communion. Parce que la communion, c'est profond. C'est dans les profondeurs de Dieu qu'on trouve la connaissance de Dieu, la communion, le cœur de Dieu. Oui, il pouvait les saisir, les brutaliser, les insulter, mettre des chaînes à leurs pieds, les jeter dans une prison à Philippe. Paul et Silas, c'était des gens de communion. Même si les circonstances, brusquement, ont tourné d'une manière périlleuse, ben eux, dans leur cellule, la Bible nous dit, ils priaient et ils chantaient, pas leurs complaintes et leurs douleurs, non, ils chantaient les louanges du Seigneur. Ça, c'est la communion. Pour vivre à cette dimension-là, il nous faut la communion. Frères et sœurs, faisons tout pour développer et approfondir notre communion avec le Seigneur. Soigne ta communion avec Jésus. Amen. En partant de ce culte, prends la décision en disant... Maintenant, je vais lire ma Bible tous les jours et différemment. Je ne vais pas lire en oblique et en surface, mais je vais prier le Seigneur pour pénétrer et découvrir les richesses enfouies de la parole de Dieu. Soigne ta communion, développe ta communion et défends comme une propriété privée ta communion. Ça a été le secret de Daniel en exil pendant plusieurs décennies. Le secret de Daniel, c'était que 3 fois le jour, il invoquait l'Éternel, son Dieu. Alléluia! C'est ce qui lui a permis de traverser cette longue période de difficulté. L'adversaire a cherché à perturber sa communion, vous le savez. Certains ennemis ont fait irruption bruyamment dans son cercle intime. L'ennemi essayera de perturber aussi ta communion, mais toi, veille sur ta communion, développe ta communion, enrichis ta communion. Gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas si Abimélec a déversé quelques tonnes de pierres et de poussière pour obstruer tes sources d'eau, mais fais comme Isaac, fais comme ses serviteurs, creuse et recreuse. Si tu as perdu du terrain, récupère le terrain perdu. Parce que c'est possible, alléluia. Si tu as laissé ton agenda se remplir d'occupations, de soucis et d'obligations, etc., multiples, fais le tri. Vous voyez, moi, fin juin, là, je regardais mon citronnier. Alors, j'ai fait une sélection. J'ai aéré mon citronnier parce qu'il y avait plein de branches qui partaient de tous les côtés, des gourmands qui pompaient l'énergie. J'ai taillé, bim, bim. Alors, prends ton sécateur ce matin. Prends ton sécateur et aère ton planning et remets en évidence ce qui est prioritaire. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on pourrait se lever et terminer par la prière, s'il vous plaît ? Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Oh, pendant que l'un d'entre nous invoque le Seigneur, et bien sûr, nous adhérons à sa prière.